Donc, je voulais remercier, si vous le permettez, Jean-Marie Caillé, monsieur l'académicien, non, mais d'avoir, qui a créé ce cycle de conférences. Effectivement, c'est la 16e année, hein, sur un thème chaque fois différent. Bon, celui-ci, c'est demain, et je voulais remercier d'avoir donné, contrairement à ce qui a été dit au début, la parole à l'université sur demain l'université. Bon, après, il y a un programme qui est affiché. Et effectivement, pour répondre à votre question, il s'agit de personnes qui se retrouvent sur un programme qui vient d'écouter des biologistes, des éthiciens, des chercheurs et autres. Et bon, qui sont contents ou pas contents, mais les gens qui viennent, a priori, s'ils reviennent, c'est qu'ils y trouvent quelque chose. Donc je veux remercier très sincèrement M. Caillé, hein, et Mme de Michel de porter ce signe d'intelligence. Et je suis sensible aussi à l'honneur qui est que vous me faites, hein, parce que je vous éviterai évidemment le parcours de quelqu'un qui pendant 10 minutes vous dit « je m'interroge pourquoi on m'a demandé » alors qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui auraient pu le faire. Bon, ça, c'est vrai, je ne le dirai pas. Et je voulais simplement vous dire aussi que cette conférence, pour moi, elle arrive en fin de mandat, après 5 ans de pilotage d'une université, et depuis 6 mois d'un ensemble de 4 universités, qui est le PRESS, qui rassemble beaucoup de gens, 60 000 étudiants, plusieurs milliers de personnes, enseignants-chercheurs et personnels administratifs, et que 5 ans à la tête d'une université, ça, c'est une expérience assez inoubliable. Bon, je pense qu'il y a un président qui est là, M. Bello, il pourra le témoigner. Je ne dis pas que, contrairement à vous, que c'est les plus belles années de ma vie, mais c'est certainement les plus riches, parce qu'on côtoie tout le monde à un niveau qui est extrêmement intense. Alors, la première question, pour répondre à votre question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une université. Là-dessus, la connivence intellectuelle avec Jean-Marie Caillé fait que je prendrai un peu ce qu'il a dit. On pourrait la définir, il y a beaucoup de façons de définir l'université. Hein. C'est, évidemment, un lieu de production et de synthèse des connaissances, un lieu de formation et un lieu de culture. Vous savez que les définitions de l'homme par les philosophes sont très multiples, donc il y en a qui sont parfaitement ridicules, animal doué de raison. Et il y a une définition de Jules Renard que j'aime beaucoup de l'homme, c'est le seul animal qui ait des ennuis d'argent. Donc en paraphrasant, on pourrait dire pour l'université, pour simplifier, et c'est en écho à ce que l'on vient d'entendre, c'est probablement un des seuls lieux où la liberté de pensée et d'expression soit garantie et entre autres couchée dans les textes, hein, puisque un article 952, dont j'ai malheureusement oublié le tiré, je ne sais pas si c'est 12 ou 13 du Code de l'éducation, garantit aux universitaires, et c'est écrit dans les textes, la liberté de pensée et d'expression, évidemment dans les limites de ce qui pourrait être relevé d'autres juridictions, par exemple pour des propos diffamatoires, racistes ou révisionnistes. Mais il n'y a pas d'autre exemple. Et ce que vous avez dit me paraît être vraiment la meilleure définition d'université. C'est-à-dire que c'est un endroit où on garantit la liberté de parole, d'expression, de pensée. Elle est garantie dans les textes. Et il n'y a pas d'autre exemple, parce qu'on pourrait dire qu'effectivement, un fonctionnaire qui s'exprime a peu de chances de perdre son emploi. En dehors du corps de fonctionnaire, c'est sûr qu'on le perd si on dit ce que l'on pense, souvent. En université, non seulement on ne le perd pas, mais ça fait partie même du corpus de l'université. Et je crois que c'est la meilleure définition. Et effectivement, dans l'histoire, les universités ont toujours été les refuges de l'intelligence, de la pensée, de la résistance aux dictatures, quelles qu'elles soient, et je dirais à la bêtise. On le disait toujours à la fin d'un magnifique concert, les universités, c'est probablement le seul lieu où la bêtise n'entrera jamais. Je crois que c'est le plus bel hommage que l'on puisse leur rendre dans un monde qui est parfois, évidemment, très difficile. Effectivement aussi, Jean-Marie Caillé l'a dit, l'université a toujours été souvent combattue par le pouvoir politique, par les idéologies, parce que justement, elles sont indépendantes. c'est cette espèce de juxtaposition des savoirs, des cultures, cette transmission, ce bouillonnement qui parfois gêne, nous aussi, et qui nous a gênés dans votre introduction, qui fait qu'on ne sait pas très bien comment prendre les universitaires. Et ça, c'est une chose, bon, je crois, qui restera. Bon, si on peut dire demain, l'université, elle restera comme ça, ou elle n'existera plus, comme elle existe quand même depuis fort longtemps, et bien avant le XIIIe siècle, puisque bon, il y a des formes, évidemment, diverses, des écoles et autres, mais là-dessus, c'est extrêmement rassurant. Donc ça, c'était pour donner une définition. Ensuite, il y a, par rapport aux attaques dont on a pu être l'objet, qu'est-ce que n'est pas une université ? Alors, une université, effectivement, et ça, c'est très important dans le débat actuel, n'est certainement pas une juxtaposition de formation professionnelle à stricte finalité d'insertion et d'emploi. Ça, c'est un débat qui est très important parce que, bien sûr, nous ouvrons nos portes à des jeunes qui, après, entreront dans la vie active, mais on ne peut pas résumer l'université à une formation qui doit insérer 100% des jeunes dans l'année qui suit. On y tend. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans l'université. Il y a le droit au savoir, le droit à la culture, le droit à échanger, le droit à se mélanger, qui ne se résume pas dans des statistiques. Et le combat aujourd'hui de l'université française est aussi celui-là. J'ai oublié de déclencher le chronomètre, du reste. Voilà, je m'enlèverai 5 minutes. C'est aussi celui-là, c'est-à-dire que je suis inquiet quand on nous demande uniquement nos statistiques d'insertion professionnelle. Parce que si c'est ça, bon, ce sont des écoles professionnelles qui sont coupées du mélange des filières, qui sont coupées évidemment de la production de savoir qu'est la recherche, et c'est extrêmement dangereux, et on tuera l'université. Du reste, aucune université au monde n'a été aussi simplificatrice. Jamais dans le passé, et jamais même dans les modèles les plus aboutis ou les plus mis en exemple comme certains modèles anglo-saxons. Les États-Unis, par exemple, que l'on peut critiquer énormément, mais qui ont quand même, et que personnellement j'ai tendance à critiquer, mais qui ont quand même des choses qui sont très précieuses, en particulier au niveau de la presse et au niveau de certaines universités. On parlera des droits d'inscription. Harvard, numéro un mondial, bon, qui est évidemment une université que l'on croirait programmée pour gagner, pour écraser les autres. On est extrêmement frappé de voir qu'il y a des formations professionnelles de très haut niveau, extrêmement robotisé, si j'ose dire, en partenariat avec l'industrie, mais il y a aussi, à côté, énormément de choses que l'on n'oserait pas soumettre à une copie de l'enseignement supérieur en France. Me promenant là-bas, on y voit, j'exagère peut-être à peine, mais enfin, des formations sur le violoncelle baroque, etc., sur la théologie, et la vision du monde et de l'astronomie. C'est cet ensemble-là qui crée l'université. Et c'est cela qu'il faut préserver en France en se battant là-dessus. Troisième remarque préliminaire, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est la place aujourd'hui de l'université en France. Avant de donner quelques chiffres, il est bien évident que l'université n'a pas en France la place qu'elle a dans les autres pays, dans la vie de la cité, dans la vie de la nation. Pourquoi ? Parce que, bon, bien sûr, depuis Napoléon Bonaparte, puis les grands hommes de la République française, comme Charles de Gaulle, on a toujours eu tendance à isoler de l'université ce que l'on voulait faire de bon. C'est la création des grandes écoles, c'est la création des IUT, c'est la création des organismes de recherche, qui sont, bon, bien sûr, ce qu'on appelle des EPST, le CNRS, l'INSERM, l'INRA, et on en rajoute chaque fois. C'est-à-dire qu'on isole de l'université chaque chose que l'on veut faire fonctionner. Et de ce fait, en France, ça n'existe nulle part ailleurs, on appauvrit l'université de cette notion de mélange, de lieu unique, de production de savoir et d'échange. Et ça, c'est un des phénomènes les plus inquiétants. D'autant plus que les hommes politiques français sont exceptionnellement formés à l'université et ne la comprennent pas spontanément. Ils font des efforts et certains ont fait des comebacks historiques assez notables, mais très peu sont issus de l'université. Ce qui n'est pas du tout le cas ailleurs. Je prendrai un exemple, je prends l'Angleterre. L'Angleterre, ça avait fait une histoire de ce qui a été rappelé ici lors d'un honoris causa de très haut niveau, que tous les premiers ministres anglais sont faits honoris causa par leur université d'origine. Et il y avait eu une histoire que vous vous rappelez très bien au sujet de Margaret Thatcher, où il y avait eu une fronde terrible, parce que justement elle avait réduit les crédits de la recherche et son université avait dit non, on refuse, et du reste ça avait été le cas, qu'elle soit faite honoris causa. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pratiquement tous les premiers ministres anglais sont issus d'universités. Quand y en a-t-il en France aujourd'hui ? C'est une question. Les États-Unis, tous les hommes politiques pratiquement, depuis très longtemps, j'ai vérifié ça hier soir assez tard, sont issus d'universités. On peut se gausser de George Bush, il sort d'une université. Et quand on lui parle d'université, il sait ce que c'est, il fait même partie des anciens de son université. Et il va à des réunions. En France, point. Pour un homme politique français, qu'est-ce que c'est qu'université ? C'est une pétaudière remplie de gauchistes qui fonctionne mal et qui est mal gérée. C'est un peu la vision qu'ont les gens. Donc ça pollue le problème. Et la place, c'est vrai pour les hommes politiques au niveau national, c'est vrai pour les hommes politiques au niveau régional, c'est vrai pour les hommes ou femmes politiques au niveau des municipalités. Du reste, il est signifiant, par exemple, d'une municipalité comme la nôtre, les municipalités du site de Bordeaux, où sont les universités, il y a des signes qui ne trompent pas. Excuse-moi, pour ceux qui connaissent ma monomanie, je le répéterai, mais le tram, qui est un moyen merveilleux de transport quand il fonctionne, à des stations qui sont toutes nommées de noms tout à fait merveilleux. Mais il est assez illustratif de voir que, par exemple, sur le site de Carrère, où il y a la bagatelle de 11 000 étudiants et de 3 000 personnes qui travaillent, la station, puis il ne faut pas poser le problème, personne n'y a pensé, c'est ça qui est grave, ce serait volontaire. Ça s'appelle Hôpital Pellegrin. Bon, d'accord, mais c'est vrai que c'est à côté de l'Hôpital Pellegrin, mais enfin, centre hospitalier universitaire, déjà, eût été mieux, ou Hôpital Pellegrin, Université Victor Segalen. Plus drôle encore, cours de l'Argonne, au 66, il y a le siège de l'Université de Bordeaux, c'est-à-dire le siège du Presse, ancien hôpital des enfants. Station de tram s'appelle Institut Bergonnier. Du reste, les malades qui arrivent pour la première fois voient un grand bâtiment, juste devant l'esplanade, l'Institut Bergonnier est à plusieurs centaines de mètres un peu plus loin, qui arrivent pour se faire soigner, vont naturellement vers ce bâtiment, en disant, en plus, c'est un ancien hôpital. C'est là l'université, ça doit être là l'Institut Bergonnier. Et puis on a dit non, c'est l'université. Ah bon, mais où est-ce qu'il est l'hôpital alors ? Donc c'est assez signifiant ça, vous voyez, c'est la coupure complète de l'université avec le pouvoir et avec la cité. Donc il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des situations telles que celles qu'on connaît aujourd'hui, de l'enseignement supérieur. Et les gens ne comprennent pas. J'ai eu l'occasion de parler, quand on est président, dans cette occasion, avec des hommes et des femmes politiques de tous niveaux, de toutes couleurs. Et ils font un effort. Ils vous disent « Ah oui, oui, c'est vrai, mais ils ne connaissent pas l'université. » Alors c'est la faute, évidemment, probablement, de cette manie française de créer des choses tout à fait séparées, qu'on empile, qui fonctionnent très mal ensemble. Ça, c'est un de nos drames. Mais c'est peut-être aussi notre faute de ne pas avoir été à la conquête du pouvoir politique, hein, c'est-à-dire de nous être impliqués davantage, d'avoir discuté avec les gens et de leur expliquer ce qu'est l'université, la chance de l'université. Ça se voit du reste dans les chiffres. La France subit sans doute fait partie des pays qui ont une dette considérable, supérieure à 1 200 milliards d'euros, supérieure à 65% du produit intérieur brut, bon, ce qui est supérieur aux critères de Maastricht, bon, d'accord. Mais ce n'est pas récent, ça, que les universités, l'enseignement supérieur, sont notoirement sous-financées. C'est lié à cela, c'est-à-dire qu'un pays qui ne comprend pas son enseignement supérieur, ou qui n'investit pas dans l'enseignement supérieur ou dans la culture, qui sont ce qui a sauvé les civilisations au travers du monde, est un pays qui forcément décline. Et ça, il faut que les politiques le comprennent et qu'on les aide à comprendre. Quand on voit, par exemple, que la France a comme part du PIB 1,1% pour l'enseignement supérieur contre 2,6% pour les États-Unis, ça pèse très lourd. Et il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, on soit dans des situations qui n'aient rien de commun. Bon, on peut citer d'autres pays d'Europe, le Danemark, je lis, hein, 1,8. Des pays comme la Corée du Sud, bon, qui ne sont peut-être pas des modèles de démocratie, je dis ça comme ça, mais enfin bon, de 2. Et on est toujours très au-dessus de 2, souvent supérieur à 3, parfois supérieur à 4 pour des pays le plus nordiques. Et on s'aperçoit évidemment d'un différentiel dramatique, y compris avec des pays, moi personnellement étant né à la frontière espagnole et étant également souvent en Espagne, je vois avec joie pour les étudiants et les chercheurs espagnols et grande tristesse pour les Français, le différentiel qui se creuse entre les universités ibériques et les universités françaises. Il faut aller à Valence pour voir ce qu'est une université, par exemple. Et savoir, par exemple, que sur Bordeaux, des locaux dans lesquels il pleut, dans lesquels on a honte d'inviter des gens ou de les faire travailler ou de les enseigner. Je ne parle pas d'ici, M. Bellot, puisque ce site a été merveilleusement restauré, mais il faut se promener sur l'ensemble des bâtiments pour comprendre à quel point l'université française a souffert de cette coupure entre le politique et l'universitaire. Je ne vais pas vous faire réagir en disant ceci, mais allant à l'hôtel Matignon, j'ai appris là qu'un rapport qui est, semble-t-il, objectif, chiffrait le besoin immédiat de l'université française au niveau du strict bâti, je ne parle pas là des bourses, on va en parler, et du reste, à 12 milliards d'euros immédiats pour remettre les bâtis de l'université française à peu près aux standards internationaux. 12 milliards. Pour Bordeaux, nous avons eu l'occasion de chiffrer à peu près et assez précisément, du reste, ce qu'il faudrait pour les quatre universités. On est à 400 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que depuis des années, ces investissements n'ont pas été faits. Les universités travaillent à petits bras, travaillent avec, évidemment, des visions souvent très, très lointaines et très ambitieuses, mais qui sont forcément ramenées à l'immédiat par le manque de moyens. C'est un problème absolument dramatique. Et ça, il faut le savoir. Alors, aujourd'hui, puisqu'il faut parler de demain, mais on peut parler d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'université française, je ne veux pas être pessimiste, on dit que j'ai été trop pessimiste dans le Sud-Ouest, mais comment faire ? C'est-à-dire que quand on nous annonce un plan d'aide exceptionnel de 5 milliards d'euros sur 5 ans, dont on ne connaît pas du reste la réalité, on sait déjà que sur ces 5 années, on ne pourra pas, même grâce à cet effort exceptionnel, et je crois qu'il est exceptionnel, mais faire quelque chose de très significatif compte tenu du retard accumulé. C'est une vraie question. Évidemment, il ne m'appartient pas à moi d'essayer de la résoudre. Je ne connais rien à l'économie. Je suis sûrement un très mauvais gestionnaire, en tout cas en ce qui concerne mes finances personnelles. J'espère n'avoir été moins catastrophique pour l'université qui m'avait élu. En ce qui concerne les solutions, je ne les connais pas. Les conséquences, on les connaît en revanche. C'est qu'aujourd'hui, si un pays comme la France, qui fait partie quand même des grands pays et des grandes nations, avec une tradition de recherche qui a été saluée du reste par un prix Nobel conjoint très récemment, dans lequel il y a un tissu merveilleux au point de vue de l'enseignement supérieur, au niveau de la recherche, il n'y a pas une prise de conscience beaucoup plus forte que celle qui a eu lieu au cours de ces quelques mois de ces 14 mois là qui ont précédé, il y a du souci à se faire pour demain. Alors effectivement, j'ai remarqué que dans la conférence, l'université demain, il n'y avait rien marqué au bout, il pouvait y avoir un point d'exclamation, ça veut dire l'université de demain sera le champ universel de la victoire, un point d'interrogation qui aurait été peut-être plus dur. Est-ce qu'il y aura encore une université demain ? Vous n'avez rien mis. Mais demain, effectivement, si rien ne change, alors il y a lieu d'être inquiet. Parce qu'une université, indépendamment de ce que c'est, dans tous les aspects liberté, expression, transmission, production et transmission du savoir, mélange des cultures, tolérance, garde-fou de la démocratie et de la liberté de parole, quoi qu'on dise, hein, que vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi en fonction du prélude, c'est sur l'université que repose la solution demain. Ce n'est pas parce que nous sommes universitaires que nous le disons. C'est évident. C'est totalement évident. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que 60 000 étudiants aujourd'hui dans Bordeaux ? C'est évidemment les gens qui feront la France de demain. Bon, il faut savoir, je rends des chiffres de Michel Jamais, 2,25 millions d'étudiants dans l'enseignement supérieur en France et 1,4 million dans les universités françaises. On en reparlera. Je regarde l'heure quand même. Ces gens-là feront la France de demain. Deuxièmement, il y a la recherche que l'on ne peut pas couper parce qu'une autre caractéristique qui est consubstantielle de l'université, c'est le mélange permanent de la transmission et de la production du savoir ou inversement. Des structures où il y a enseignement sans recherche, ce n'est pas une université. Parce que, évidemment, la recherche produit la connaissance que l'on transmet, l'interaction avec la formation oriente la recherche. Donc ça c'est consubstantiel. Et donc il y a la recherche. Et la recherche, c'est quoi ? Ben, c'est produire la civilisation de demain, au sens large. Et je ne parle pas uniquement de l'économie de l'innovation, cher à Christian Blanc ou à quelques-uns dont je fais partie du reste. C'est aussi l'indépendance du pays vis-à-vis des brevets, vis-à-vis de tout ce qui est la vie de demain. Enfin, si la recherche française et le reste ne produisent plus ou ne sont plus en matière de produire, on l'a vu du reste pour le prix Nobel, qu'on n'a pas su garder le bénéfice de l'innovation, eh bien, nous acheterons les brevets, nous acheterons ailleurs. Donc ça, c'est une catastrophe sur le plan économique, et donc il faut même, quand on est en relative faillite, avoir le courage d'investir sur ce qui corrigera la situation demain. Sinon, on l'aggrave, et c'est un phénomène assimilable à une espèce de d'effondrement décrit bien par les statisticiens qui travaillent sur les modèles de chaos. Ça, c'est à craindre, parce que c'est extrêmement fragile. Et puis, il y a aussi une autre mission dans la recherche et dans la production des savoirs. C'est évidemment la production de l'intelligence qui normalement, va vers les civilisations et les protège. Un pays qui n'investit plus là-dedans est un pays qui se soumet. Qui se soumet à, évidemment, la dictature intellectuelle, à l'appauvrissement de la pensée auquel beaucoup de gens travaillent. Donc si nos élites, si nos étudiants vont ailleurs parce qu'en France, ben, les conditions sont ceci et cela, eh ben, ils acquièrent, je dirais, la civilisation d'ailleurs, et ils acquièrent l'idéologie d'ailleurs. Et évidemment, nous nous soumettrons et de ce fait, nous disparaîtrons. C'est très important parce que, vous l'avez rappelé, Monsieur Caillé, le mot « universitas »,« universitatis » est apparu au XIIIe siècle. 1261, si j'ai bien révisé mes notes. Et dedans, il y a effectivement l'ensemble, le tout, c'est-à-dire ce mélange qui est regroupé. Alors, je suis très mauvais, moi, en histoire. Les écoles cathédratiques, pour les collèges privés, sacerdotaux et autres, qui ont été rassemblés sous l'autorité du pape, pardon, hein, c'était l'histoire, hein, c'est plus le cas maintenant, mais qui a survécu du reste, hein, dans certaines universités pontificales, bon, la Pontificia de Santiago, etc. Mais cet ensemble-là, c'est vraiment quelque chose qui est fragile et qui doit sécréter la civilisation de demain. Ça, s'il y avait une chose à dire, si vous m'aviez donné 10 minutes, je crois que je me serais arrêté là, parce que c'est quand même notre civilisation, nos valeurs, et qui ont été portées quand même, y compris dans le sang, par la nation française, le message qu'on a aussi vis-à-vis du reste du monde, qui pourrait, je ne dis pas à qui, mais qui pourrait être mis en danger. Un exemple qui nous fait mal, mais les élites, entre guillemets, enfin, j'aime pas beaucoup ce terme, mais des pays, par exemple, du Maghreb, qui, bon, pour des raisons là aussi historiques que l'on pourrait discuter, mais là, on en serait jusqu'à 23 heures, venaient en France, ne viennent plus en France. Bon, ils vont ailleurs, bon, au Canada, etc. Donc, ceci, on le voit, apparaître ce phénomène. Donc, parmi les grands mots de l'université française, il y a sa coupure de la vie politique et active, son morcelage, le charcutage, où on nous dit, ça c'est bon, je vais en faire un article dérogatoire, donc je le sors de l'université pour en faire un établissement autonome, son sous-financement, et puis il y avait aussi, et ça il faudra le trancher, un manque d'autonomie, et on reparlera de la loi, effectivement avec un État qui ne s'est jamais investi depuis quelques... Il s'est investi autrefois, hein. Et je donnerai un exemple du reste. Mais depuis quelques années, il ne s'est pas investi massivement, mais il reste tatillon. Donc c'est la pire des choses, c'est-à-dire avoir un manque de moyens avec des mains liées par d'innombrables textes, lois, contraintes auxquelles il faut répondre, ce qui est un appauvrissement complet. Alors pour donner l'exemple de l'investissement, il faudrait rappeler quand même, alors je ne sais pas très bien ce qu'était le président Sadi Carnot au plan politique, il était sûrement radical, non, comme tous les hommes politiques, on ne perd pas grand risque à dire ça. Sous le président Sadi Carnot, il faut rappeler que dans Bordeaux, alors c'était municipal à l'époque, c'était pas l'État, mais enfin peu importe, c'était l'effort de la collectivité, on a quand même bâti quelques babioles. Quelques babioles quand même. On a bâti cette magnifique faculté qui a été inaugurée, donc il y a le tableau là qui est magnifique. On a bâti la faculté de droit place Péberlan. On a bâti la faculté des lettres cours Pasteur. On a bâti l'école du service de santé des armées, cours de la Marne, etc. Donc des bâtiments immenses, des bâtiments extrêmement bien construits, le tout en 10 ans. 10 ans pour faire ça. Aujourd'hui, pour modifier ou réhabiliter un amphithéâtre, c'est un combat de 15 ans. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Cherchez l'erreur. Et effectivement, puisque nous sommes ici sur un site des sciences humaines et sociales, ça a dû être fait, hein, je ne vais pas regarder dans la liste des thèses, mais des travaux intéressants de regarder le parallélisme entre l'investissement de la collectivité et la production du pays vis-à-vis de la connaissance et du rayonnement. Il y a sûrement un parallélisme. Alors, il y a un petit décalage, mais le déclin, bon, évidemment, il s'explique. Si on investit dans l'immédiat, si la culture se fait par M6, si les mangas et les sudoku remplacent les invités du mercredi, il y a à craindre pour notre pays, et y compris pour ses libertés. Bon, je crois que tout le monde, j'espère, est convaincu, mais c'est quand même un vrai souci. Alors ensuite, les 2,25 millions étudiants en enseignement supérieur ou le 1,4 millions. Parlons-en. Alors d'abord, contrairement à ce qu'on pense, et là, ce n'est pas un pourcentage totalement énorme, puisque sur la proportion des 25-34 ans qui sont diplômés d'université, là je lis mes notes, c'est 21% en France, 27% au Canada, 31% aux États-Unis et 38% en Norvège. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas très bon. De plus, l'État est assez cynique dans son rôle sur les universités. C'est que, et c'est probablement un sujet de débat pour les questions tout à l'heure, l'université ne fait pas de sélection. C'est-à-dire que vous savez, quand vous avez le bac, quelle qu'en soit la filière, vous avez le droit de vous inscrire dans la filière de votre choix, même si nous, universitaires et pilotes, nous pensons que, du fait de son profil, cet étudiant serait beaucoup mieux ailleurs et que ce qu'il a choisi a priori l'amène à quasi coup sûr à un échec, où il perdrait du temps, etc. On peut l'informer, c'est ce que l'on fait, mais on ne peut pas l'orienter de manière, ou le sélectionner de manière évidemment drastique. Ça, l'État le sait. L'État le sait et le maintient. Bon, très bien. En soi, personnellement, ça ne me gêne pas. Le problème, c'est que l'État nous dit, vous avez un taux d'échec important, ce que du reste Michel Jamais m'a corrigé en disant, ce n'est pas vrai, puisque 20% des étudiants français sortent sans diplôme de l'université, et un certain nombre de ces 20%, parce qu'ils vont vers des filières autres, etc. Mais l'État nous dit, il y a beaucoup trop d'échecs. Si on veut tuer l'université, c'est facile de démontrer que ça ne va pas. Il y a beaucoup trop d'échecs, beaucoup trop d'étudiants sortent sans diplôme, et vous devez faire de l'excellence au bout. Alors moi je dis aux gens, connaissez-vous une structure qui doit prendre tout le monde, qui doit avoir un taux d'échec de zéro et qui doit faire 100% d'excellence au bout? Bon, cherchez l'erreur, c'est impossible. Donc il y a une espèce d'hypocrisie qui est acceptée par tout le monde là-dessus. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'on vous dit, ah oui, mais il y a encore des gens, au bout de 3 ans, ils cherchent encore un emploi. Et alors? Mais bien évidemment qu'ils cherchent un emploi. C'est aussi lié à l'économie du pays. C'est ce qu'on a expliqué lors de la crise du CPE. Tiens, j'y reviens à la crise du CPE, parce que juste un mot pour... Vous n'êtes pas trop long, non, ça va encore. Vous faites... stop. La crise du CPE qui montre bien l'indépendance des universitaires, puisque pendant la crise, on a géré pas mal de responsabilités, je dis on, les universités, hein. Ce qui s'est passé, dont on était pour rien. Ouais. On l'a subi. Hein. Et pour avoir dit une fois une chose dans un média national, médium national, que quand on a dit les universités paieront les dégâts que les étudiants ont causés, j'avais trouvé ça vraiment choquant, parce que pendant qu'on a géré ça, on n'a jamais eu le moindre message venant de l'enseignement supérieur en disant merci. Tenez bon, on va faire ceci, on va faire ça. Aucune information. Et ce qui a été dit simplement par un des ministres, c'est de dire les universités paieront les dégâts. Et interrogé, je m'étais un peu laissé aller, j'avais dit, nous on a géré pendant que le ministre était sous la table. Et le ministre l'a su, et j'y ai su après, c'est amusant, il a demandé quelles sanctions peut-on prendre contre lui. Et on lui a répondu, aucune. C'est ça l'université. Bon, c'est... Ensuite, alors là, sujet polémique qui va probablement provoquer des broncas, enfin, c'est celui des droits d'inscription. Une hypocrisie phénoménale. Donc on l'a vu cet après-midi, 2 ou 3 personnes qui ont fait l'amitié d'être là étaient au conseil d'administration sur la mise à mort des droits, enfin qui ne sont pas des droits, du reste des droits illégaux, en particulier du timbre à 3005. Les taux d'inscription, les droits d'inscription français sont ce qu'ils sont, mais ils sont fixés très clairement à 165 euros pour l'équivalent de la licence, 215 pour le master et 326 pour le doctorat. Alors, a priori, évidemment, un Américain ou un Coréen hurle de rire en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et du reste, quand ils viennent en France, ça leur pose un problème. L'université croit, nous non, vous non, mais disons en tout cas ceux qui nous gouvernent croient que ça garantit le libre accès, et c'est l'espèce de chimère de l'égalité française et de l'équité qui va avec, en disant droit faible, donc tout le monde peut faire des études, nous sommes le pays qui doit être montré en exemple comme le plus démocratique au monde. Ben, c'est exactement l'inverse. C'est une hypocrisie phénoménale auquel participent du reste largement les étudiants et des organisations étudiantes. Parce que, qu'est-ce que c'est que ce système? Le coût, on le connaît, c'est 10,5 milliards par an, ce qui, compte tenu du nombre d'étudiants inscrits, revient à peu près à un peu plus de 7 000 étudiants par an. Ça le coûte. 7 000 euros par étudiant et par an. Alors, évidemment, il faut le payer. Qu'est-ce qu'il paye? Ça vient, vu l'état du commerce extérieur et de la croissance, ça vient évidemment de l'impôt. L'impôt, il est constitué de l'impôt indirect, qu'on appelle TVA, dont la justice est bien connue, et de l'impôt sur le revenu, dont 50% seulement des foyers français acquittent. Du reste, le record du monde dont personne ne parle, ça. Hein. Même dans les campagnes électorales, personne ne parle de l'impôt sur le revenu. Les plus pauvres ne l'acquittent pas, évidemment, ils sont en dessous du seuil, mais beaucoup des plus riches ne l'acquittent pas non plus, pour des raisons évidentes de niches fiscales, de méthodes diverses et autres. Ce qui fait que, est-il normal, pardon d'être un peu franc, mais qu'aujourd'hui, l'impôt qui est essentiellement prélevé sur les classes moyennes et faibles supérieures et moyennes supérieures, à l'exclusion des autres, finance les études de gens à très haut revenu. Si ça satisfait les gens, tant mieux. Moi, je trouve ça absolument une hypocrisie noire. Personne n'en parle. On parle de 13 euros de droit sport, au secours, scandaleux, sélection par l'argent. Je hurle de rire. Et je vous le dis en face, messieurs et madame les étudiants. je hurle de rire parce que ce système aboutit effectivement à faire qu'aujourd'hui, dans les universités françaises, les plus défavorisés ont disparu. Et regardez, dès que les études sont longues, il n'y a plus de gens d'origine défavorisée. C'est fini. Parce que ce n'est pas les 165 euros, ou s'ils étaient 500, qui bloquent. C'est effectivement le coût, le logement, tous les à côté. Et comme l'État se saigne à raison de 10 milliards par an pour payer ce que ne paie pas le droit d'inscription, contrairement aux autres pays, il n'y a pas de politique courageuse de bourse et d'aide à l'excellence, d'où qu'on vienne, y compris si on est parmi les couches les plus pauvres. Alors que dans des pays qui sont montrés du doigt comme très inégalitaires, c'est ça qui nous fait mal, et y compris les États-Unis, c'est possible. Je suis désolé, mais j'étais enseignant au Canada et dans une université anglo-saxonne. J'ai toujours été frappé de voir que parmi les étudiants qu'on avait, il y avait toujours des gens qui venaient du milieu extrêmement modeste. Aujourd'hui, en France, en médecine, je n'en vois plus un. Enfin, en tout cas, on pourrait regarder les statistiques et vous les donner. On sait très bien que ça a disparu. Donc, c'est une espèce d'hypocrisie. Donc ça, c'est aussi un problème qui est que le financement, il peut venir de plusieurs sources. Mais il y a là un mode de raisonnement. Qu'est-ce que signifie pour, je dirais, nos enfants, à nous qui sommes, bon, peut-être pas des riches, mais relativement aisés, qu'est-ce que ça signifie de payer 165 euros par an pour s'inscrire en sociaux, en odonto ou en que sais-je? Bon, c'est ridicule. C'est ridicule pour nous. C'est pas ridicule pour d'autres. Par contre, l'accès n'est pas garanti pour... Ça, c'est un problème dont il faut absolument... se saisir. Donc voilà à peu près le tableau de l'université. Alors l'université demain, ça sera, et pour conclure, évidemment autour de ce qui va se passer dans les universités dans les mois, les semaines même, les mois et les années qui viennent. Effectivement, il y a la loi liberté, autonomie des universités, dite loi Pécresse, du nom de la ministre, qui du reste une ministre, je le dis encore pour vous choquer, qui est une très grande ministre, à mon avis, mais on ne peut être pas d'accord avec elle, j'ai été souvent en désaccord avec elle, mais qui est une très grande professionnelle qui connaît particulièrement bien ses dossiers. Bon, elle n'est pas universitaire à l'origine, hein, c'est là aussi, ça démontre HEC Léna. Et pourtant, elle a travaillé pour essayer de comprendre les universités, je crois qu'elle y est arrivée. Bon, après, l'idéologie est l'idéologie, on n'est pas forcément d'accord sur tout. La loi Pécresse, effectivement, a été votée... a été publiée au journal officiel le 11 août et devra être mise en œuvre avant le 11 février par les universités, faute de quoi on nous imposera le modèle qui était le modèle initial et dont la CPU, c'est-à-dire la conférence des présidents d'université, n'a pas voulu. Donc nous le ferons. Alors ça corrige des choses. Ça peut introduire aussi des risques. Donc ça, c'est évidemment... la possibilité de faire mieux, parce que ça enlève quand même, et je le dis, des stupidités de contraintes, en particulier vis-à-vis du budget global, par exemple. Il est absolument ridicule qu'un président d'université et son conseil d'administration n'aient absolument pas la possibilité d'avoir une fongibilité des lignes. Aujourd'hui, quand nous négocions un contrat quadriennal avec l'État, on le négocie selon des lignes, par l'universitaire, le ceci, le cela, et on ne peut pas les fondre. Donc si vous êtes en excédent sur l'une et en déficit sur l'autre, vous pouvez prendre de l'argent d'un côté pour l'autre. Et on vous enlève la fois d'après en disant « Ah, vous n'avez pas tout dépensé, donc je vous l'enlève ». Donc on va vers, et forcément un rabotage, parce que jamais on arrive, c'est impossible, à moins d'être vraiment très fort, à tout équilibrer en même temps. Et le résultat, c'est que nos dotations, sauf pour le contrat dernier, mais en tout cas ce qui est le fonctionnement, n'a pas augmenté chez nous, par exemple, dans notre université, depuis plus de 10 ans. Alors, vous voyez un petit peu quand vous êtes face au chauffage fluide et dépenses. Donc ça, ce sont des progrès. Mais la loi Pécresse, aussi bonne qu'elle soit par certains aspects et aussi préoccupante par d'autres, ne réglera pas le problème de fond. Elle ne touche pas, évidemment, au grand problème, je l'ai dit, de la réflexion sur les droits d'inscription et l'égalité des chances. Elle reste obsédée quand même par la notion de performance au plan mesuré sur l'insertion professionnelle, bon, ce qui est bien, mais il faut faire attention que ce soit pas réducteur, et surtout, pour l'instant, et ce n'était pas son but du reste, ce n'est pas une critique, mais elle ne résout pas le problème des moyens. Et une loi sur l'autonomie qui ne s'accompagnerait pas d'un effort considérable de la nation vers des moyens plus importants est la pire des choses. Alors bien sûr, on nous dit vous allez pouvoir faire des fondations universitaires qui seront de fait reconnues utilité publique, ce qui est une très bonne chose. Donc accepter des fonds ou des dons, ou ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire des généreux donateurs. Mais c'est un problème de culture. C'est un problème de culture. Je veux dire que si vous êtes à l'université américaine, Monsieur Bill Gates, évidemment, il vous fait un chèque parce que c'est son université, Harvard. Et il a payé, j'ai visité du reste, un truc absolument magnifique, c'est incroyable. Bon. Mais bon, il fait un chèque de 100 millions de dollars, voilà, boum, 100 millions de dollars. En France, qui c'est qui va faire ça? C'est un leurre. Bon, je veux dire que, bon, à moins que l'on incite, parce que ce n'est pas passé. L'objectif prioritaire de faire de l'université la chance de la France de demain n'a jamais été le slogan ni de la gauche ni de la droite. J'ai oublié de le dire, bon, ne disais pas que je suis au centre, mais c'est quand même le problème. Et le slogan de la CPU, que nous-mêmes nous n'avons pas saisi suffisamment, l'université est une chance, saisissons-la, n'est pas rentré dans les mœurs. Donc le riche français, le grand industriel, ou le je ne sais pas quoi, le grand mécène, il n'est pas enclin de faire des chèques pour l'université, la recherche et l'autre. Il le fait du reste, puisque nous sommes médecins, souvent vers des appareils de soins. On l'a vu du reste pour l'Institut Bergonié, il y a eu un don d'un grand négociant en vin. Bon, il a fait un chèque pour un appareil d'imagerie, enfin d'intervention. Mais on attend encore que M. Pinault ou M. j'ose pas parler de Thalès, là, mais enfin, ou M. je sais pas qui, nous faut de ADS, nous disent voilà. Et du reste, c'est assez signifiant. Voilà. Sans moyens, l'université demain, avec son autonomie, pourra se trouver vraiment en difficulté. Alors après, il y a des solutions, on peut évidemment dire le CNRS, l'INSERM, à fond de tout ça. En gros, et pour conclure, il y a vraiment une prise de conscience qui ne peut passer, à mon avis, que par une campagne politique extrêmement forte et une campagne des citoyens en disant l'université, c'est ça qui a toujours garanti que la France a été une grande nation, qu'elle continuera à défendre les valeurs de la démocratie, de l'indépendance, du progrès dans le monde entier, qu'elle sera peut-être, même que c'est un petit pays quand même, au point de vue du nombre d'habitants, mais qu'elle sera quand même le garde-fou qui saura dire « stop, on n'est pas d'accord ». C'est ça aussi, défend l'université, mais ça veut dire que la France se saisit du problème des universités, elle ne l'a jamais fait pour l'instant. Et du reste, les grandes mesures initiales de la droite et de la gauche n'ont jamais été en faveur de l'université, même là. Je rappellerai quand même une chose intéressante. Pourquoi y a-t-il eu le mouvement Sauvons la recherche? Pourquoi est-ce que ça a explosé à un moment? Parce que les chercheurs, évidemment, en avaient assez. Mais il y a eu une erreur terrible de nos dirigeants. Je ne sais plus si c'était de droite ou de gauche, bon, peu importe. Ça a été de dire non, on ne pourra pas aider la recherche parce que la France est au taquet sur le plan budgétaire. Bon, ce qui est sans doute vrai. Et on nous a même culpabilisés, c'était terrible de dire... Nous envisageons de fondre de l'or de la Banque de France. Vous voyez, c'est-à-dire pour le français moyen, comment le bas de laine, on va l'attaquer pour ces espèces de chercheurs, vous voyez. C'était nous mettre la population à dos. Quelques semaines après, à peine, un restaurateur, par ailleurs excellent, est allé voir le président de la République pour la TVA sur la restauration. Il a obtenu 4 fois. Ce que réclamait le mouvement des chercheurs. Alors là, ça a mis le feu. Les gens ont dit, attendez, et c'est pour ça que le mouvement est parti. Donc vous voyez, ça n'a jamais été une priorité. Il faut que ça le soit. Priorité absolue, à mon avis. Et bon, ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'il faut se battre sur la notion d'université qui est effectivement universitas, un tout, qui englobe des choses extrêmement différentes de pensée et ne pas vouloir les séparer parce que la richesse vient de là, de l'espèce d'hétéro ensemencement. La troisième, qui est liée du reste, c'est qu'il faut rassembler dans l'université ce qui en est parti. Il est totalement ingérable, humiliant, que les grandes écoles, que des écoles d'ingénieurs, que les organismes de recherche soient disjoints des universités. Ça a l'air de dire, vous êtes incapable de gérer la recherche sérieusement. Alors je ne sais pas, on peut trouver des solutions, mais par exemple aux États-Unis, où y a-t-il ce genre de choses? Même le MIT, bon, qu'on nous dit chaque fois c'est l'exemple, enfin d'abord il n'y en a qu'un, et deuxièmement c'est pas vrai. Et le MIT, il est en face de Harvard, là il y a le boulevard pour ceux qui connaissent, etc. Ce sont les mêmes, c'est dedans. En France, en Europe du Nord, il n'y a pas ça non plus. Hein. L'université est une chance pour eux. Du reste, ils n'auraient pas oublié le tram. Voilà, ils l'auraient appelé université de Trondheim ou je ne sais pas. Donc ça, c'est trois choses sur lesquelles il faut qu'on se batte. Et la communauté universitaire, elle doit aussi faire fi de ses chimères. Et effectivement, bon, les droits d'inscription en constituent une, il y en a d'autres. Nous devons aussi nous responsabiliser, débattre à l'intérieur et ne pas être critiqués parce que nous apparaissons archéo-paléolithiques. Donc voilà à peu près ce que je pouvais dire, bon, évidemment, dans ces 42 minutes, sur l'université du passé, l'université aujourd'hui, alors il ne faut pas être négatif non plus, hein, je veux dire que nous sommes fiers d'être université, enfin, je dis toujours, j'ai l'impression de faire le plus beau métier du monde. Les craintes pour demain, qui sont réelles, parce que si des mesures extrêmement courageuses ne sont pas prises, il ne s'agira pas de saupoudrage ou de préélectoral ou postélectoral, il s'agit vraiment de dire c'est le choix au détriment de telle ou telle chose, alors là il y a du souci à se faire. Merci beaucoup et donc on va pouvoir discuter.